Vous êtes sur RTL.
Comme.
Allô maman bobo.
RTL.
Allô maman bobo.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Chers amis DDM du dimanche matin, bonjour, ravi de vous retrouver sur RTL en ce dimanche 19 décembre à 5 jours de Noël. Emma, bonjour.
Bonjour Michel.
Christophe, bonjour.
Bonjour Michel, bonjour à toutes et tous.
Et je vais dire bonjour aussi à Patrice qui n'est pas dans ce studio avec nous parce que nous sommes très vigilants, nous sommes précautionneux, nous ne voulons pas prendre de risques. Patrice, bonjour.
Voilà, je suis plus que jamais puni, voilà. Loin de vous, mais prêt par le son, on va dire.
Et ça
vous
va mieux ?
Oui, ce Covid, ça se passe pas si mal finalement. Évidemment, il y a des courbatures, des nez bouchés, ensuite qui se mettent à couler. Vous comprenez pas trop ce qui se passe. Ce qu'il faut, c'est dormir et puis attendre que ça se passe, quoi. Voilà.
Et la semaine dernière, vous nous aviez parlé quand même du symptôme le plus important, enfin le plus handicapant, qui était la baisse de la libido.
Ah oui, alors ça c'est un gros problème.
Est-ce que c'est revenu?
Et je vous avoue. Non, c'est voilà, cette fin d'année, il y aura pas d'exploit, je vous le dis tout de suite.
C'est pas la fête de slip voilà. Chez les rantaines. Merci beaucoup. Au sommaire, Emma.
Alors vous nous avez parlé de Noël, mais vous savez ce qui se passe dans deux jours?
C'est l'hiver.
Voilà, oui, alors ça, officiellement voilà. C'est le début de l'hiver. On va aussi célébrer les 50 ans d'existence de Médecins Sans Frontières. Oui, tout à fait, mais c'est pas tout, c'est aussi la journée mondiale de l'orgasme.
Ah,
et on en parle dans quelques instants, je vais tester vos connaissances en la matière.
Ah bah, vous n'allez pas être déçus. Patrice, justement, sur ce thème. I wanna hear Christmas song.
Vous avez remarqué, hein, c'est une chanson de Noël, une Christmas song, comme on dit.
Ouais.
Alors moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de violer le secret médical. Je sais, ça vous plaît pas, c'est répréhensible, la loi interdit de le faire, sauf que le patient ne risque pas de crier au scandale puisqu'il s'agit du Père Noël. Ce matin donc, nous ouvrons son carnet de santé et je peux vous dire que c'est moche, hein, ce qu'il y a dedans. C'est pas beau.
Coach Cricri.
Mais 3 nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau. Et 3 nuits par semaine, mais bon Dieu qu'elle est belle.
Alors, Indochine, c'est pas bon ça?
Ah, si, ça fait plaisir.
Ça faisait longtemps quand même. Et c'est 3 nuits par semaine pour être avec elle. Pour moi, c'est 3 jours par semaine pour être avec lui. Mais lui, c'est le sport, bien sûr. Je vais aujourd'hui essayer de répondre à tous ceux et celles qui se demandent s'il vaut mieux ne faire qu'une séance de sport longue par semaine ou plusieurs petites espacées dans la semaine. On voit ça tout à l'heure.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Alors les amis, si on se prépare bien sûr aux agapes, aux fêtes de Noël, aux fêtes du 31, on doit aussi se préparer à la journée mondiale de l'orgasme.
On est prêt.
Elle va précéder les réveillons, puisqu'elle est célébrée dans 2 jours.
Oui.
Et il y a un objectif très précis à cette journée de l'orgasme, Emma.
Tout à fait, mon cher Michel, c'est de dire oui à la paix dans le monde. En gros, c'est une déclinaison du slogan « Faites l'amour, pas la guerre ».
Et pour tester nos connaissances en matière d'orgasme et de plaisir, vous nous avez préparé un quiz.
Prenez-le comme un cadeau de Noël, hein, on n'a qu'à dire.
On peut dire des bêtises, hein, c'est Noël.
Oui, non, pas trop.
Je commence avec une petite question rien que pour vous, Michel, une question prononciation anglaise. Tant on aime vous entendre parler la langue de chaque speard. Cette journée mondiale, elle porte un nom international et donc anglais. Vous voulez bien nous le lire?
Yes, sure. No problem. It's so fine. Global Orgasm for World Peace.
Oh yeah. Et littéralement, ça veut dire un orgasme international pour la paix dans le monde. C'est un beau projet, non?
C'est beaucoup international.
Alors, bah oui, ça fait du monde. Ça fait du monde. Je vous rappelle la définition de l'orgasme d'après le Robert. C'est le point culminant du plaisir sexuel. Perso, je préfère celle-ci à celle du Larousse qui parle de point culminant et terme de l'excitation sexuelle, probablement rédigée par un homme.
Ah oui, ça c'est drôle comme définition.
Aïe, 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 ça commence bien. Elle nous attaque. Alors, vas-y.
Alors, quel est le premier organe du plaisir pour les femmes?
Le cerveau.
Clitoris.
Ah, ils sont forts, parce que c'est un truc à deux voix, et du coup, ça marche. J'attends, c'était une question piège,
mais
à vous
très
deux,
long,
vous en sortez
Patrice,
super
sur nos personnalités
bien.
Respectives.
Donc, le clitoris est bien un organe féminin dédié au plaisir sexuel, qui a peut-être d'autres fonctions d'ailleurs, mais elles ne sont pas encore établies, des scientifiques qui travaillent. Mais en effet,
qu'est-ce que ça
en
pourrait
réalité...
avoir comme autre fonction?
Eh ben, les scientifiques y travaillent notamment sur, et on revient sur des éventualités de, sur le transport des spermatozoïdes notamment.
Le clitoris.
Le clitoris.
Ouais. Je sais qu'il y a du travail là-dessus.
Parce que comme il est caché sous la muqueuse des lèvres, je vois pas très bien. Mais enfin, bon, s'il cherche, il cherche. Hein. En tout cas, si vous avez l'info, vous nous la donnez rapidement.
Hein. C'est ça.
Alors, allez-y.
Donc voilà, clitoris.
On vous a perturbé un peu,
oui,
non?
Oui, c'est ça.
Et le cerveau.
Ça, parce que avant de se passer sous la ceinture, ça se passe dans la tête.
Surtout.
Et on sait bien que la culpabilité, la fatigue, le stress, les préoccupations peuvent largement empêcher de s'abandonner totalement.
Tout à fait.
Alors, d'après vous, puisqu'on va célébrer un événement international, combien compte-t-on d'orgasmes par minute ou par heure? Vous avez le choix à travers le monde.
Par minute.
Attendez,
il y a 7 milliards d'individus.
Voilà. Allez, 10%.
Non, mais 10%, millions. Il y a des enfants parmi les individus.
Mais je sais, j'en ai.
Et puis, on ne fait pas que ça dans la journée. Il y a des gens qui travaillent. Christophe.
Oui, oui. C'est impossible à savoir.
Moi, je dirais 2.
Moi, j'étais plutôt partie sur 1,5 million, perso.
Ah,
et c'est pas moi, en fait, c'est les comptes du Global Orgasm. Mmh. Dans le monde animal aussi, la sexualité peut être liée au plaisir et pas seulement à la reproduction. C'est vrai ou c'est faux?
Chez certains animaux, peut-être. Chez tous.
Moi, je dirais vrai.
C'est vrai.
Ouais, mais
c'est
pas
vrai.
Chez tous. Sûr, hein.
C'est vrai, c'est vrai. Des spécialistes ont identifié des comportements homosexuels, par exemple, chez les lézards ou les manchots, de la masturbation chez les singes, les dauphins, fellation chez les ours, cunnilingus chez les chauves-souris, autant de pratiques qui ne sont pas du tout vouées à la procréation, bien évidemment. On a même mesuré l'orgasme lié au plaisir chez les animaux en évaluant la fréquence cardiaque, la libération d'hormones comme les endorphines, les contractions de l'utérus, comme chez les humains.
Nous sommes des animaux.
Il faut faire gaffe de ne pas déranger un ours pendant une fellation, parce que déjà qu'un ours, ça peut être agressif, on l'a vu malheureusement il n'y a pas longtemps. Il faut faire gaffe. Hein.
Oui. Tout à fait.
J'ai le temps encore, l'orgasme peut agir comme un médicament contre la migraine.
Oui,
est-ce
absolument,
que c'est vrai
parce
ou faux
que libération
C'est une négo.
Non. Libération d'endorphines. Donc, toutes les femmes qui disent non, chérie, je ne peux pas, j'ai la migraine, il faut dire au contraire, ça va t'aider.
Oui, parce que la morphine. Alors, peut-être pas toutes, parce que c'est des travaux qui ont été menés par des chercheurs allemands. Alors, les endorphines, en effet, c'est un peu cette morphine naturelle. Mais quand même, petite précision, si l'effet est favorable pour 2/3 des patients, ça empire les choses pour le tiers restant. Donc, on ne peut pas complètement jeter à la poubelle cette histoire de migraine.
Oui, mais il faut essayer.
Puis avec un peu de Doliprane, un peu de paracétamol juste avant, ça
peut passer. Très bien.
Maria Carré pour cette playlist de Noël alors, Michel.
Oui, on va avoir régulièrement dans cette émission des petites musiques de Noël. Ah, c'est joli. On se retrouve dans quelques instants avec la deuxième partie et avec notre ami malade, Patrice. Oh.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux.
Michel Simès sur RTL,
ça va beaucoup mieux.
Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel.
Ah, Petit Papa Noël. Je pense souvent, je ne sais pas qui est l'auteur de cette chanson qui attend tous les ans Noël pour remplir son compte en banque. Et ça dure depuis des décennies. On l'a quand même très très souvent. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas ton carnet de santé.
C'est votre version.
Eh oui, ce carnet de santé, vous l'avez ouvert, Patrice, et ce que vous avez vu vous a inquiété.
Oui, le problème du Père Noël, c'est qu'il est en permanence exposé à un froid polaire. Et contre le froid, Michel, il faut se protéger.
Ouais,
alors, déjà, accumuler les couches de vêtements et surtout hydrater sa peau en ne lésinant pas sur la crème et le lait corporel. Alors, les femmes le font volontiers, mais le Père Noël, lui, c'est un homme, donc il passe outre la consigne. Résultat, il souffre de sécheresse cutanée. Il souffre également de rosacée, une maladie cutanée inflammatoire chronique. Alors pour la reconnaître, c'est facile, vous avez des rougeurs, on appelle ça des érythèmes. Votre peau ressemble à une carte routière où les vaisseaux sanguins représenteraient des routes sinueuses. Ces petits vaisseaux apparents, on appelle ça des télangiectasies.
Hein? Non, Télangiec.
Télangiec.
Pas Télangiès. Ouais. Mais c'est un métier, Patrice.
En même temps, j'ai le Covid.
C'est bien d'avoir essayé. Ah,
voilà. Et il souffre aussi, le Père Noël, d'urticaire, qui se manifeste par une éruption cutanée et des démangeaisons. Et enfin, il n'est pas à l'abri aussi, Michel, de la maladie de Raynaud. Vous connaissez ça ?
Oui, rien à voir avec Fernand. Hein. C'est une maladie dans laquelle les doigts ou les orteils deviennent pâles ou bleus ou très très blancs, hein, parce qu'à cause du froid, les petites artérioles se contractent. Et puis, Patrice, par ailleurs, le Père Noël a quand même un gros défaut.
Oui, il faut savoir que le Père Noël doit son existence à une marque mondialement connue de boissons gazeuses marron à base de caféine. Je pense que vous l'avez là.
Hein,
oui. Et c'est en effet cette marque qu'il a réhabilitée dans les années 30. Alors forcément, comme il est reconnaissant, le Père Noël, il donne le change, il se gave de ce soda dont chaque canette contient l'équivalent de 7 morceaux de sucre. Conséquence, risque de diabète et... manifestement obésité, c'est-à-dire que le tour de taille du Père Noël est largement supérieur à 99 cm, ce qui constitue la limite acceptable pour un homme. Pour une femme, c'est 92 cm, hein. Et au-delà, eh bien, le risque d'infarctus est multiplié par 2. Faut pas l'oublier.
Et on va continuer, Patrice, à se pencher sur le carnet de santé du Père Noël, où il est question de graisse viscérale.
Eh ben, c'est-à-dire qu'il a du ventre, hein. Donc la graisse qui entoure ses organes se traduit par un mauvais cholestérol, donc là encore, risque cardiaque accru. Après, vous avez aussi la pollution. À force de traîner dans les cheminées, le Père Noël inhale des particules fines. Donc ne faites pas comme lui. Si vous aimez les feux de cheminée, offrez-vous un insert. Hein. Enfin, le rythme de travail pose problème parce que toute l'année, le Père Noël est sédentaire. Et puis là, arrive la fin de l'année où il bosse comme une brute et fait des efforts intenses. En plus, il fait ça dans le froid, ce qui fait augmenter sa tension et, in fine, le risque d'infarctus et de mort subite. Donc si vous vous reconnaissez dans ce portrait, demandez au Père Noël de vous apporter un vélo d'appartement. Et surtout, n'oubliez pas de vous en servir tout au long de l'année, comme dirait Coach Cricri.
Hein ? Exactement. Merci Patrice. I'm dreaming
of a white Christmas. C'est Elvis.
C'est Elvis, c'est magnifique.
C'est beau ça. Mm-hmm.
Ah, ces petites chansons de Noël là, qu'on vous propose ce matin, parce qu'effectivement, bah, dans 5 jours, c'est Noël.
C'est Noël.
Bah oui. Et justement, les amis, je voudrais en profiter pour donner quelques conseils et voir un petit peu si vous avez pris de bonnes résolutions, vous, pour l'an prochain. Alors, j'imagine, Christophe, que vous, c'est l'activité...
Je suis une bonne résolution.
Non, oui, ouais, c'est le ça. Problème, c'est bon. Que vous, la bonne résolution, ce serait de lever le pied un petit peu sur l'activité physique, puisque vous en faites un métier.
Mais non, c'est faux. Non, alors, la bonne résolution, finalement, pour ceux qui ne font pas grand-chose, c'est certainement peut-être de s'y mettre. Et c'est une bonne période entre Noël et premier de l'an, parce qu'a priori on a un petit peu plus de temps, donc on peut tester des choses, donc ça peut être la première bonne résolution.
Et on peut s'offrir des cadeaux aussi en rapport avec le sport.
Et la bonne résolution, ça peut être aussi d'intéresser ceux qui sont autour de nous à tout ça, en offrant des cadeaux qui ont effectivement, Michel, un rapport avec l'activité physique, avec le sport. Je pense évidemment aux enfants, qui sont les premières cibles, et c'est votre combat quotidien, de faire bouger les enfants, notamment dans les écoles, et notamment quand ils grandissent, où on sait qu'à l'adolescence, ils peuvent lâcher un petit peu le sport qu'on leur fait faire depuis qu'ils sont plus petits, parce qu'ils ont d'autres préoccupations et que quelquefois, ils abandonnent. Mais aussi pour les personnes plus âgées. On sait aussi que la longévité, on sait aussi que l'élimination d'un certain nombre de risques concernant les personnes âgées passe par l'activité physique, par le fait de marcher tous les jours, de bouger, de descendre de son appartement, de sortir de sa maison, d'aller prendre l'air, de rencontrer des gens. Voilà, donc je pense que la bonne résolution, c'est de se mettre un peu dans cet environnement-là, autant pour les cadeaux que pour les choses qu'on a envie de faire aux gens qui nous entourent, pour bouger, pour plus bouger, pour être donc, par définition, en meilleure santé, voyez ?
Emma, il vous a laissé 12 secondes pour... non, mais allez-y. Vos bonnes résolutions.
Moi, je suis bien embêtée parce que d'année en année, je reprends les mêmes, donc ça vous en dit long sur le fait que j'ai du mal.
C'est pas très efficace.
Mais si, j'ai quand même réussi depuis l'année dernière à intégrer un petit peu d'activité physique, donc je vais continuer à le faire, d'autant que ça joue vraiment sur le moral. Ça fait vraiment du bien à l'estime de soi et au moral. J'aimerais bien arrêter de vapoter après avoir arrêté de fumer. Voilà.
Ça c'est bien, oui, parce qu'il ne faut pas remplacer la cigarette par le vapotage pendant 10 ans non plus. Patrice, est-ce que en dehors du Covid, vous avez des conseils à nous donner ?
Non, c'est un conseil que je donne pour le réveillon, Michel. J'adore donner ce conseil parce que c'est surréaliste que d'imaginer qu'il y a des accidents tous les ans à cause des bouchons de champagne.
Ah oui.
Des gens qui perdent un œil. Donc je leur dis encore une fois, vous allez ouvrir le champagne dans quelques jours, visez le mur, visez le plafond, visez le fond du jardin. mais éloignez les gens, parce qu'il y a des gens qui perdent un œil à chaque réveillon à cause de ça.
Mais vous savez que c'est même la première cause de cécité traumatique. La première raison pour laquelle on perd un œil à la suite d'un traumatisme, c'est le bouchon de champagne. Et moi, je vais en donner un autre conseil à tous ceux qui vont ouvrir des huîtres à Noël ou au réveillon. Protégez votre main. Alors, il y a des trucs spéciaux en plastique, en silicone. Mettez des torchons, tout ce que vous voulez. Mais surtout, si vous n'avez pas l'habitude d'en ouvrir, parce que le petit couteau à huître qui s'enfonce, parce qu'il rippe, et qui s'enfonce dans la paume de la main, même si la plaie est ponctiforme, que c'est juste un petit point et que ça saigne, vous pouvez avoir fait rentrer dans cette plaie les bactéries qui se promenaient sur le torchon, sur l'huître, etc. Et ça peut entraîner des infections de la main et du bras. On évite, si ça saigne, de s'essuyer avec le torchon qui vient de servir pour ouvrir les huîtres. On prend un papier propre ou un torchon propre, c'est ce que font les gens. Et s'il y a le moindre souci, on va bien évidemment directement aux urgences mains. D'ailleurs, on peut aussi se couper un nerf ou un tendon. Donc, vous faites très attention. Voilà, c'était nos conseils. Un petit mot, Emma ?
Bah, une petite chanson de Noël. Ah oui. Julien Clerc.
Croire au Père Noël qui descendra du ciel. Est-ce que tu te rappelles ? La vie était belle. On attend.
Une très belle chanson de Julien Clerc, toujours dans notre playlist pour Noël. On est à J-5. Et dans quelques instants, après une toute petite pause, ce sera la partie 3. Et donc, le
bonjour.
Jeu.
Oui.
En attendant Noël, en attendant Noël.
RTL, ça va beaucoup mieux.
Noël.
Avec Michel Simès.
Michel Simès sur RTL,
ça va beaucoup mieux.
Ring out, let the tale be told that inspired.
Alors, toutes les chansons de Noël sont pas top, mais celle-là,
c'est Frank Sinatra.
Ouais, Frank Sinatra. Attends, on l'écoute un peu là. C'est un de mes grands regrets. Ça, il y a deux personnes que je regrette de pas avoir vues sur scène. C'est Frank Sinatra et Jean-Jacques Goldman. Voilà, ça n'a rien à voir, mais je tenais à vous le dire quand même. Frank
Merci.
Sinatra, j'étais trop jeune. Et Goldman, il est trop vieux.
Il a arrêté trop tôt.
Mais c'est lui qui veut pas. Juste avant de jouer, je vous rappelle que nous sommes partenaires avec le magazine Dr Good en kiosque actuellement, avec à la une halte à la fatigue, retrouver du tonus, on vous coach pour que vous alliez mieux. Et à l'intérieur, vous avez justement un questionnaire. Est-ce que vous bougez suffisamment? Est-ce que vous êtes actif, inactif? Votre niveau d'activité, un questionnaire avec bien évidemment des résultats qui vous montreront si vous êtes sédentaire et s'il faut vous bouger un petit peu. C'est le moment de jouer, les amis. Et aujourd'hui, nous allons jouer avec Fatima. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes retraitée de l'immobilier, c'est ça ?
C'est cela, oui.
Alors,
tout à fait.
Fatima, je vous rappelle la règle du jeu. Il y a une énigme, trois réponses, trois versions, une par Emma, une par Christophe, une par Patrice. Une seule est bonne. Et vous avez des problèmes de sommeil ou pas, Fatima ?
Oh, un petit peu comme tout le monde, mais...
Pas plus que ça ?
Pas plus que ça.
Bon, et ben, si vous en avez un jour, ou si vous avez des gens autour de vous qui en ont, vous aurez droit à un coffret avec des produits de la jeune start-up d'Aix-en-Provence, un Morphée, un Mon Petit Morphée, un Morphée Zen. En fait, c'est des séances audio de relaxation pour s'endormir. Il y a un petit Morphée pour les enfants, avec des histoires apaisantes, si vous avez des petits-enfants et qui vous pouvez les offrir.
Absolument.
Et puis Morphée Zen, qui vous permet de retrouver le calme à tout moment de la journée. Alors, voici l'énigme. Vous avez déjà entendu parler, Fatima, des Ig Nobel ?
Absolument pas.
Alors, c'est une parodie des prix Nobel. Hein. ce prix est décerné chaque année à des chercheurs sérieux qui mènent des études tout aussi sérieuses, mais dont l'intitulé peut parfois dérouter. C'est comme ça que par le passé, un Ig Nobel a été décerné à une équipe de biologistes pour une étude sur des choses un petit peu coquines chez les chauves-souris. Mais on va revenir à 2021. Cette année, c'est une équipe de chercheurs de Grenoble qui a décroché le prix pour des travaux liés à la consommation d'alcool. Trois versions, Emma.
Alors, ces chercheurs, chère Fatima, ont planché sur l'influence de la consommation d'alcool sur la perception de soi. Ils ont demandé à des piliers de comptoir de se noter sur une échelle de 1 à 7 pour dire à quel point ils se trouvaient séduisants, intelligents et drôles. Et ils se sont aperçus que plus leur taux d'alcoolémie était élevé, plus les hommes se sentaient irrésistibles.
Christophe.
Alors, Fatima, l'étude en fait a porté sur les buveurs de bière. Les chercheurs ont réussi à prouver, je vous dirai comment après, ou peut-être pas d'ailleurs, je verrai, que quand un homme courtise une femme rousse, il a trois fois plus de chances de parvenir à ses fins s'il lui offre une bière rousse. Avec les brunes, eh bien, c'est les bières brunes, c'est cinq fois plus. Et avec les blondes, enfin avec les blondes, il y a toutes les bières qui marchent en fait. Ça marche à 89% des cas.
Patrice. Donc, voilà.
Alors en fait, Fatima, les chercheurs ont voulu vérifier la véracité de cette formule populaire qui fait dire aux personnes qui ont trop bu lorsqu'elles se réveillent avec la gueule de bois « j'ai les cheveux qui poussent ». Et effectivement, ils se sont aperçus qu'après une soirée très alcoolisée, les cheveux peuvent prendre jusqu'à 1 mm. Tout ça, évidemment, constitue un espoir pour Christophe Brun.
J'attendais.
Et 1 mm, ce ne sera pas suffisant. Hein.
Voilà.
Alors, Fatima, vous avez trois versions. Les gens qui boivent, bah, ils se trouvent plus intelligents et drôles que les autres. Ça nous est tous arrivé. Hein. Christophe qui nous dit que les blondes, vous leur servez une blonde et c'est bon. Et Patrice qui nous dit que les cheveux poussent quand vous buvez. Vous imaginez?
Oui, les trois sont très drôles. En revanche, je pense que la première me paraît plus adéquate parce que je pense qu'effectivement, quand les gens ont bu, ouais, ils sont un
bravo
peu déshibés.
Ils ont moins de lucidité sur eux-mêmes.
Voilà.
Oui, voilà. Et c'est pour ça que Patrice... Alors, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et bravo, Fatima. Je rappelle que vous avez gagné donc ce coffret de séances audio de relaxation, tout ce qui est Morphée. D'ailleurs, vous savez que Morphée, d'après vous, Morphée, c'est un dieu.
Hein, absolument, Morphée. Sommeil, hein, on se met dans les bras de Morphée lorsqu'on va se coucher.
Voilà, et ben Morphée, c'est un homme.
Ah bon?
Ah ben oui, c'est un dieu masculin.
D'accord.
Moi, à chaque fois que je dis, on se met.
Ça s'écrit et E à la fin.
Et ça voilà, s'écrit E à la fin, et c'est pourtant un dieu masculin. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, alors il ne faut pas toujours dire qu'on se jette dans les bras de Morphée. Enfin, ça dépend un peu de ses tendances,
ça,
mais de son orientation. Mais il faut faire gaffe. Merci beaucoup, Fatima. On vous envoie.
Merci. Au revoir.
Vous voulez quelques petites précisions sur cette réponse?
J'allais dire, Emma, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions?
Ah, avec plaisir, Michel. Avec grand plaisir. Alors, plus l'homme boit, plus il se trouve irrésistible. Cela dit, cette meilleure perception de soi n'est pas forcément due aux effets pharmacologiques de l'alcool, mais à un effet placebo. Parce que dans un deuxième temps de l'étude qu'on a abordée, les chercheurs ont convié une centaine d'hommes à tester une boisson soi-disant nouvelle d'une société factice. Aux uns, ils ont servi de l'alcool, aux autres, des boissons sans alcool, mais sans jamais les mettre au courant du contenu du verre. Bref, certains pensaient boire de l'alcool alors que c'était du jus de fruits et vice-versa. Eh bien, ceux qui croyaient avoir bu de l'alcool, se trouver plus séduisant que les autres.
Ah, voilà, comme quoi l'alcool, ça rend. On a une petite musique.
Je voudrais rajouter un truc, moi.
Oui, allez-y, rajoutez, Patrick.
Je précise quand même que c'est la première fois qu'une équipe française décroche le Ig Nobel.
Ah oui.
Un prix qui existe quand même depuis 1991. Donc, cocorico.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Voilà, merci Pascal.
Très bien. Allez, une petite musique de Noël.
C'est un collectif français. J'ai cru reconnaître Obispo, mais je me suis peut-être trompée. Bon, j'ai quelques chances.
Merci Emma pour votre culture.
Ça va beaucoup mieux. La Minute Numérique Santé.
Nous répondons tous les dimanches à vos questions sur le numérique en santé dans l'optique de la mise en place de cet espace santé numérique qui s'appellera Mon Espace Santé. Et ça, c'est à partir du 1er janvier. Question de Nina, qui échange de plus en plus par mail et par SMS avec son médecin. Elle a un doute sur la sécurisation des informations de santé qu'elle transfère. Est-ce que la confidentialité est réellement respectée? Christophe, c'est une question que se posent beaucoup, beaucoup de gens avant cet espace numérique.
Tout à fait, et c'est une question qui est tout à fait légitime. Le fait est que le recours au numérique donc s'est accéléré, hein, ça ne vous a pas échappé, avec de plus en plus d'échanges qui se font par l'intermédiaire d'Internet et des outils qu'il permet. Après une consultation chez le médecin ou un test en laboratoire, on peut recevoir les ordonnances ou les résultats de biologie par email. Alors effectivement, Nina, utiliser votre Gmail ou les plateformes des GAFAM en général ne protège pas vos données de santé. L'exploitation commerciale qui pourrait en être faite n'est pas maîtrisée. Ces informations pourraient par exemple être ensuite utilisées pour adresser de la publicité ciblée. Or, vos données de santé sont personnelles et sensibles. Elles ne regardent que vous et vos médecins, les médecins que vous aurez choisis.
Vous avez dit GAFAM, vous voulez bien nous rappeler ce que sont les GAFAM?
Oui, les GAFAM, c'est donc l'ensemble des plateformes américaines représentées par les marques Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, tous ces fournisseurs de solutions et de supports numériques que vous utilisez certainement tous les jours. Avec mon espace santé, donc le nouvel espace qui sera mis à disposition de tout le monde à partir du 1er janvier, le nouveau carnet de numérique disponible, donc assuré par l'assurance maladie, il mettra en place la messagerie sécurisée citoyenne qui vous permettra de vous affranchir justement, Emma, des GAFAM. Vous pourrez échanger avec votre médecin en toute sécurité. Vos données sont cryptées, ça veut dire qu'elles sont illisibles pour ceux qui n'y ont pas accès. Les transferts se font en toute confidentialité, comme si vous étiez avec votre médecin en physique. Et vous avez la garantie que seul votre médecin, justement, en est le destinataire. Et bien sûr, le secret médical est respecté. Ce service est déjà proposé aux habitants de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique et de la Somme. Il y a eu un test depuis quelques mois. Et donc, dès janvier 2022, il sera étendu à l'ensemble de la population. Ce sera l'occasion d'en parler avec votre médecin, d'ailleurs, et de privilégier avec lui ce nouveau canal sécurisé qui permet de gagner du temps, etc. et qui est quand même très commode. Vous retrouvez tout ça sur le site www.oui-à-la-e-santé.fr, tout attaché en minuscules. Vous trouverez toutes les informations qui vous donneront réponse à vos questions nombreuses, j'imagine. Voilà.
Merci Christophe. On se retrouve dans quelques instants pour la partie 4, la partie activité physique avec Coach Cricri.
Quand j'entends chanter Noël, j'aime.
Regretter Christophe avec cette très belle chanson. On se retrouve dans quelques instants.
À d'autres Noël.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Ça, c'est Paul McCartney.
Ah oui, j'ai reconnu.
C'est Paul McCartney.
Ouais,
c'est tous les trois. Christophe, vous allez nous...
Paul McCartney, donc. C'est magnifique.
Vous allez nous expliquer choisir.
C'est nul, mais c'est drôle.
Bien
sûr, évidemment.
Alors, je rappelle. Christophe, vous allez nous expliquer que choisir quand on se demande si on doit ne faire qu'une séance de sport dans la semaine, mais longue ou plusieurs petites étalées dans le temps.
Ouais, et ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Je ne vous surprendrai pas, Michel, en vous disant que, comme souvent, comme d'habitude, la vérité est au milieu. Prenons l'éventualité d'une seule séance de sport le week-end, mais une séance longue, on va dire 1 à 2 heures. Qu'est-ce qui se passe vraiment, en fait? En fait, vous n'avez pas bougé de la semaine, vous n'avez pas eu le temps, vous avez plus ou moins bien dormi, vous avez fait plus ou moins d'écart, et vous demandez à votre corps, là, tout d'un coup, un effort particulier, alors qu'il n'a rien fait, pendant 7 jours. Erreur, à ce moment-là, vous lui imposez un stress négatif qui peut s'apparenter pour lui à la maladie. Résultat, vous ne lui apportez rien de valable sur le plan musculaire et pas non plus quelque chose de valable sur le plan cardiovasculaire.
Donc c'est tout l'inverse si on fait plusieurs séances plus courte dans la semaine.
Alors, ce qui est certain, c'est que c'est la régularité et la fréquence qui donnent de bons résultats. Régularité, ça veut dire il faut tenir son rythme de pratique sur le long terme. Ça doit d'ailleurs devenir une hygiène de vie, je vous le dis suffisamment. Fréquence, ça veut dire qu'il faut faire en sorte d'enchaîner le plus de séances possible dans une période de temps donnée.
Et donc, ça veut dire, si 2 heures en une fois le week-end, c'est pas terrible, est-ce qu'un quart d'heure, 15 minutes une fois tous les 2 jours, c'est mieux, ça?
La réponse est oui, Emma. Bravo. Oh, voilà, c'était une question dans laquelle il y avait déjà une réponse. Mais c'est mieux de faire une session plus courte toutes les 48 heures, mais à deux conditions. Je suis d'accord avec vous, mais à deux conditions. La première, vous devez mettre de l'intensité dans votre séance. La deuxième chose à associer à tout ça, c'est une hygiène alimentaire cohérente. Je ne dis pas stricte, je dis cohérente. On boit de l'eau, beaucoup d'eau, on limite au max le sucre, on mange léger le soir, on essaie de limiter au maximum aussi tout ce qui est transformé.
Christophe, tout à l'heure, là, vous avez parlé de stress négatif. J'en conclus qu'il y a un stress positif
ou... Oui. En sport, c'est une expression qui est courante. Quand on parle de stress positif, on signifie que par l'intensité de l'entraînement et de l'effort musculaire, on impose au corps, aux muscles ou au système respiratoire une épreuve, un stress donc, qui va l'entraîner et lui permettre de progresser. Donc aussi bizarre que ça puisse paraître, à ce moment-là, la notion de stress est positive puisqu'il contribue, le stress, à renforcer les capacités globales du système musculaire et cardiovasculaire.
Voilà, on précise quand même qu'on doit faire ce que sa condition physique nous permet de faire avant de stresser votre corps, même si c'est de façon positive. Vous devez bien sûr prendre l'avis du médecin.
Oui, tout à fait. Expliquez à votre médecin précisément ce que vous voulez faire et à quel niveau. Dites-vous qu'il n'y a pas de questions bêtes. Les plus bêtes des questions avec le médecin, c'est celles qu'on n'ose pas poser et qui en fait auraient de l'importance et serait intéressante à creuser avec lui en tous les cas pour qu'il vous donne son avis. Enfin, je vous disais au début que la vérité devait être au milieu du choix entre une séance longue, une fois, ou plusieurs courtes à intervalles réguliers. Effectivement, une bonne articulation semble être de faire des séances courtes mais intenses dans la semaine, par exemple, et une autre plus longue dans le week-end. Vous aurez ainsi couvert tous les aspects d'un entraînement efficace, l'intensité qui vous permettra d'encaisser les séances et la longueur qui vous permet de vous acclimater à la durée de l'effort nécessaire au progrès dans le temps, Michel.
Oui, absolument. Alors, on dit souvent, allez consulter votre médecin pour parler sport, activité physique avec lui. Souvent, les gens disent, oui, mon médecin, il n'y connaît rien. Alors, ça peut être vrai, parce que c'est vrai qu'à la fac, on n'a pas été formé à ça, mais c'est de moins en moins vrai parce qu'il y a de plus en plus de formations et les médecins s'y intéressent de plus en plus. C'est le fameux sport santé. On a même des livres. Il y a un Vidal du sport santé qui a été donné aux médecins. On a des applis professionnelles aussi qui nous permettent, en fonction de la condition physique et des pathologies de ces patients, de recommander une activité physique particulière.
Oui, de toute façon, quelle que soit la question que vous avez, l'intention de faire du sport ou autre chose, il faut effectivement aller voir son médecin. Je précise que cette chronique est à retrouver chez notre partenaire lepoint.fr.
Voilà, absolument. Michel. Patrice, vous avez une petite saillie drôlatique ?
Non, mais une info qui va intéresser tous ceux qui sont concernés par les dons de gamètes, parce que figurez-vous qu'à compter de... Alors c'est encore loin, mais ça va vite arriver, le 1er septembre 2022, toutes les personnes nées d'un don de gamètes pourront, une fois majeur, si ces personnes le souhaitent, demander des informations sur le donneur. Alors, il pourra s'agir d'informations non identifiantes, c'est-à-dire la motivation du donneur, ses caractéristiques physiques, etc. Ou alors d'informations identifiantes, c'est-à-dire avec le nom et le prénom du donneur. En revanche, la loi ne prévoit pas qu'il y ait un lien de filiation qui puisse être établi. Et puis, je précise aussi que tout cela ne sera pas rétroactif. Ceux qui ont fait un don de gamètes avant cette date ne verront pas leur identité divulguée, en tout cas sans leur consentement.
Merci Patrice pour ces informations. Merci chers auditeurs. C'est la fin de cette émission. Je voudrais vous signaler que on va prendre un petit peu de repos également. Oui. On va se retrouver le 9 janvier prochain, le dimanche 9 janvier prochain, toujours à 9h15. On fêtera le retour de Patrice. Vous allez passer d'ici là, nous l'espérons, de bons réveillons. Faites attention au Covid. Continuez les gestes barrières, c'est très important, même si vous avez des repas en petit comité ou en famille. Vraiment, faites attention. N'oubliez pas le troisième rappel. Prenez soin de vous. On espère vous revoir en forme le 9 janvier. Merci Emma, merci Christophe. Et merci Patrice, et on va se quitter sur Michael Bublé. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. Magnifique voix de Michael Bublé. Et les amis, qu'est-ce qu'on dit à nos chers auditeurs? Passez
de très bonnes fêtes.
On vous embrasse tous et retour le 9 janvier.
Ciao. Gros bisous.
Joyeux Noël et bonne année.
Merci Patrice. You know that all I want. For Christmas is you.
Is you. Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux.